première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Oui, c'est surtout mettre à l'honneur cette année Thierry Bosquet, qui est quand même un des tout grands messieurs de l'opéra, du théâtre, du ballet, puis du cinéma aussi, puisqu'il a fait aussi énormément de costumes.
Le salon Thierry Bosquet, au château de Chimay, portrait d'artiste, avec Anne de Rouveur, Marcel Kreutz, Isabelle de Borgrave, la princesse Elisabeth et Thierry Bosquet. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Allez, Chaski.
Authentique, me tentop, me tentententum, stélé.
Le monde invisible.
Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Et voilà.
Pouvez-vous tenter de le décrire, cet endroit ?
L'aspect de ce salon est 18e, et je crois que les boiseries proviennent d'un hôtel que les Chimay avaient au Quai Malaquais à Paris. Je crois que les boiseries viennent de là, qui sont absolument ravissantes. Les princes m'ont fait l'honneur de me demander de fabriquer des maquettes qui magnifient les lieux, mais des lieux inconnus, parce qu'au fond, j'ai fait des tas de recherches sur ce qu'il y avait dans le château, et au fond, il n'y a aucune trace de décoration. Il y en a eu sûrement d'extraordinaires, mais on ne sait pas comment exactement. Donc, je suis allé carrément dans l'imaginaire.
C'est un grand décorateur, c'est un illusionniste, c'est un artiste, il se prétend un artisan, c'est quelqu'un qui est influencé par Venise, par les perspectives, par les vues, par l'illusion, par le vrai, par le faux, par la magnificence des choses. Et on lui dédie à titre définitif un salon au château de Chimay, puisqu'il a beaucoup collaboré avec les princes et les princesses de Chimay depuis plusieurs décennies maintenant. Il a beaucoup illustré des cartons d'invitation, des cartons de mariage, des événements. Et voilà, c'était absolument pas pensable pour nous qu'il ne puisse avoir un musée dédié à Thierry Bosquet, ou en tout cas une salle ou un salon au château de Chimay, entièrement consacré à cet homme de talent et d'une simplicité tellement sincère, tellement discret. C'est toujours jamais lui qui l'a fait, c'est toujours son équipe, c'est un professeur aussi, puisqu'il donne des cours à l'école Van der Kelen, qu'il a formé tous les gens qui font des décors dans le monde. Il en a fait à New York, il en a fait partout. Mais c'est des gens de derrière le rideau, c'est des gens qui ne se mettent pas en avant. Voilà.
Et j'ai commencé par faire des maquettes dans ma vie, par la passion de faire des modèles pour l'opéra. J'ai fait beaucoup de décors d'opéra dans ma vie. Et donc j'ai pris le goût de faire des miniatures, parce qu'il fallait le faire pour les ateliers. Conclusion, je me suis précipité ici avec une joie folle. J'en ai fait pour moi d'ailleurs à la maison, que la princesse a vu chez moi. Et ça lui a donné l'idée de proposer des maquettes à magnifier, disons, selon ce qui est dans le château ici.
Donc quand on lui a demandé de faire l'honneur au prince et à la princesse, de faire une pièce à son attention, il était confus de gêne et en même temps flatté. Mais voilà, ça c'est Thierry Bosquet, quelqu'un de très discret.
Quand on fait une maquette pour le théâtre, on l'a fait de façon beaucoup plus succincte qu'ici. Mais je me suis dit, au fond, puisque j'ai passé ma vie à faire ça, justement, si on le faisait très approfondi et terriblement détaillé, comme des modèles qu'on voit à Amsterdam dans certains, au musée du Rijksmuseum. Les Hollandais ont fait des modèles comme ça, les Anglais aussi. Et ce qui m'amuse énormément, c'est de pousser les choses au point que j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui les ai faites. C'est très curieux quand on fait une maquette. Ce qui se passe, c'est que tout à coup, on est dans l'endroit que l'on fabrique, et j'ai l'impression qu'on ne le fabrique pas, qu'on est une espèce de mécanisme qui est commandé par le résultat lui-même. C'est très difficile à expliquer. C'est une impression de... Quand je les revois, par exemple, j'ai l'impression que je ne les ai pas faites, moi. Et je dis, tiens, mais j'ai fait ça. Tellement la transposition est forte. L'abandon qu'on y met aussi. Et c'est comme si on vivait dans un état, comme dans des rêves. Je n'invente pas, c'est vraiment comme ça. On m'a toujours dit que quand tu fais des maquettes, tu es de meilleure humeur que n'importe quoi d'autre. En général, peindre me met de bonne humeur. C'est ce que je supporte le plus sur Terre. C'est d'avoir des pinceaux et des couleurs. Mais ça, paraît-il, encore plus. Et je crois que c'est vrai. Et ça n'a pas de fin. Ce qui fait que je peux en faire encore maintenant des dizaines. J'ai plein d'idées en tête. Et au fond, c'est tout ce que j'ai voulu faire sur la scène, c'est un monde rentré. Qu'est-ce qui reste en moi ? J'ai pas pu faire tout ce que je voulais sur la scène pour des questions de budget, pour des questions de sujet, pour des questions de metteur en scène qui vous demande de faire ce qu'ils pensent parce que les maîtres d'œuvre sont des metteurs en scène. Et là, j'ai toujours un trop-plein de décorations intérieures qui brûlent. Et j'aimerais bien le réaliser. J'adorerais décorer une maison entière, par exemple. Mais comme ça, folle, tout à fait peinte, enfin, démente, quoi. Et peu importe si c'est faux ou vrai. L'authenticité m'est complètement égale. J'ai pas une âme d'antiquaire du tout. J'ai vraiment ce que je suis, un décorateur, quoi. Voilà.
La raison de votre présence, Marcel Kreutz, au château de Chimay.
Nos hôtes, c'est-à-dire les princes de Chimay, sont des amis, je dirais des amis proches, des personnes que nous apprécions beaucoup, à la fois pour leur curiosité artistique qui s'étend aux arts plastiques, à la musique bien entendu, puisqu'il y a ce merveilleux petit théâtre, et aussi parce que depuis des années, nous sommes très admiratifs pour le fait que Philippe de Chimay, par exemple, se soucie très très intensément de l'entretien du château, de la rénovation, des travaux à faire. Je pense que dans une époque où, naturellement, le fait de vivre ou de posséder un château est une chose très lourde et qui donne lieu, peut-être ici et là, dans tel ou tel milieu, à des critiques en disant « Ah, alors il y a ces vieux mythes qui ressortent, la vie de château, les gens qui vivent comme des châtelains dans le luxe et l'oisiveté ». Et moi, ce qui me touche toujours, depuis déjà bien des années, connaissant Philippe de Chimay et aussi, bien sûr, maintenant Françoise, c'est le soin, le zèle, la passion, l'acharnement avec lequel tous deux se préoccupent de la vie de ce château.
En gros, oui.
Vous vous dites décorateur et pas scénographe ?
Scénographe, ça vient depuis que le metteur en scène est devenu le maître d'œuvre d'un opéra ou d'une pièce de théâtre. Avant, quand j'étais petit, on disait toujours le décorateur ou le costumier. Et je suis les deux. Alors, voilà. Scénographe, c'est un monde plus limité. Scénographe, c'est plus technique. Ça comporte des métiers que je n'ai pas. Un scénographe peut être un architecte, peut être un éclairagiste uniquement. On fait maintenant au théâtre des décors de lumière, par exemple, de construction. Un décorateur, c'est quelqu'un qui décore vraiment. Ça, je me sens ça. Ce thème est aussi vrai pour ce que je fabrique au théâtre, mais aussi pour tout. Je me sens un décorateur plus qu'un peintre. Je ne me sens pas tellement un peintre, mais quelqu'un qui adore les décors, la décoration, et d'en fabriquer. Le côté éphémère. Évidemment, maintenant que je vieillis, je vous avouerai que l'éphémère commence à me peser. J'aimerais bien que cette chose reste. C'est pour ça que ceci m'enchante, parce que voilà une chose qui restera. Je suppose, à moins que le château brûle. On en est marre de ce que je fabrique. Voilà.
Et si vous dites Marcel Kreutz, amour des arts.
Oui, alors c'est Thierry Bosquet. Alors là, je peux parler vraiment d'une amitié. Là, nous pouvons remonter dans le temps et franchir les décennies. Parce que Thierry Bosquet est tout simplement, d'ailleurs, un de mes amis, pour mon épouse également, d'ailleurs, les plus anciens. Notre rencontre et notre amitié remontent, là j'en suis certain, au début des années 60. Donc Thierry Bosquet était déjà un jeune artiste au début des années 60, déjà en activité, mais tout de même encore à l'aube, je dirais, de sa carrière. Et c'est grâce à la musique et grâce à l'opéra que nous nous sommes véritablement rencontrés, puisque Thierry Bosquet avait été remarqué par celui qui était à l'époque le directeur du Théâtre de la Monnaie, Maurice Haussmann, et Maurice Haussmann avait perçu très rapidement le talent et l'originalité de ce jeune artiste, et donc il lui a demandé de participer à des spectacles de la Monnaie. Et c'est en 1960, je me souviens très bien, que Thierry Bosquet a signé pour la Monnaie les décors et les costumes de La Flûte Enchantée. Donc ça a été le point de départ d'une carrière évidemment immense.
Il y a un mot que vous avez dit, Thierry Bosquet, et qui m'intéresse. Et Underhoover, là où nous parlons, c'est ce que vous appelez le musée ou la pièce.
On a toujours appelé cette pièce la pièce aveugle, puisqu'elle n'a pas de fenêtre.
Je trouve que quand on fait ce genre de métier, c'est pas fortuit. J'ai un défaut, c'est que j'ai souvent voulu éviter la réalité. Elle me pèse, le monde réel m'ennuie, très souvent. Et c'est un métier qui permet de rester, pas complètement fou, plutôt équilibré, mais de faire en même temps quelque chose qui est en dehors du quotidien. Par exemple, je souffre beaucoup de la laideur visuelle du monde qui devient horriblement vilain. Les villes sont ignobles. Je vais à Londres, par exemple, c'est devenu une ville, les bords de la Tamise, c'est épouvantable. Tout ça m'empêche de rêver. Et alors, il y a cette espèce d'égalité, une uniformité dans l'architecture, dans les formes, dans toutes sortes de choses. Dans le monde entier, on fait 15 heures d'avion, on arrive au même endroit que les HLM qu'on a quitté, quoi. Et je trouve tout ça, ça déforce le rêve très fort. Si on peut appeler ça du rêve, rêve ou réalité, j'en sais rien, mais c'est certainement le passé aussi, je suis très passéiste à cause de ça d'ailleurs. C'est aussi un défaut, parce que le présent ne me fait pas rêver. Sinon je serais tout à fait contemporain, j'adorerais l'être, mais je ne parviens pas. Et alors aussi, vous savez, quand on dit, je ne parle pas du rêve, mais comment le rejoindre, c'est un mot vague bien entendu. Au fond, rêve veut dire, pour moi, ne pas être dans la réalité, plutôt que rêve. Parfois les rêves sont sublimes, mais ça c'est autre chose, c'est un domaine psychologique. Ne pas être dans la réalité demande une grande technique. Et j'ai toute ma vie, chose curieuse, je me suis dit au fond, pour pouvoir se faire ce qu'on veut, il faut pouvoir le faire, donc il faut une technique très solide. Et j'ai travaillé totalement, le plus que je pouvais, je ne sais pas si j'ai tellement technique que ça, mais j'en ai en tout cas par rapport à ce qu'on voit maintenant. Mais ça me permet surtout de faire ce que je veux, d'être libre. Et ça, ça m'importe beaucoup. Tout doit être bien fait. C'est pour ça que je ne me sens pas tellement un peintre, mais un espèce d'artisan. C'est très joyeux de l'être. Et je crois que la notion ancienne d'artiste n'était pas du tout la même que la nôtre, qu'il y avait un mélange entre l'artisanat et l'art, entre guillemets, qui est une notion romantique, mais qu'avant ça, on ne disait pas c'est un grand artiste, ou n'importe quoi. On reconnaissait le talent de quelqu'un. Mais quand on voit, par exemple, les frontispices de Pan Mozart, tous les noms sont en grand, sauf Mozart, la musique de Signor Mozart, tout minuscule. On se dit, mais c'est incroyable, alors que tout ce qui reste, c'est lui. C'est incroyable, cette chose-là. Ces antinomies, cette espèce de contradiction, sont quelque chose de très, très touchant. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je ne me compare pas à Mozart. Je m'empresse de dire que je suis loin de là. Mais t'es d'ailleurs mon Dieu entre nous. Mais ceci dit, c'est une réflexion qu'on se fait sur la gratuité de l'acte. Et je crois que maintenant aussi, on pense trop à la valeur de l'art, la valeur pécuniaire, enfin, et pas assez à la qualité. Mais qui dit qualité dit acharnement, technique et savoir-faire convenable, bien fait, quoi. Quelque chose à bien fait. Ça, c'est très important. Et c'est curieusement, c'est dans les arts appliqués. Parce que, en musique, par exemple, le progrès est énorme par rapport à ma jeunesse. Par exemple, maintenant, les gens chantent bien. Les orchestres sont plus nombreux, sont excellents. Du côté de la musique, une réaction dans la jeunesse qui est très étrange et qui échappe exactement à la platitude générale qui est dans le monde visuel. Si je pourrais me faire étrangler après ce que je raconte là. Mais enfin, tant pis.
Thierry Bosquet, les artistes d'antan travaillaient aussi en collaboration.
Oui.
C'est votre cas ?
C'est mon cas, oui, très souvent. pas dans le projet lui-même, mais vous savez, au théâtre, dans tous les ateliers, on travaille en collaboration. Et c'est tout ce que j'adore. Et de même que je suis passionné par découvrir qu'il y a du talent. Comme quand on donne cours, enfin, on voit des gens qui ont un formidable acharnement, mais qui n'ont pas le talent. Mais par contre, quand ils l'ont, on le voit en 10 minutes. Et ça devient la collaboration la plus exquise de la Terre, parce qu'on s'échange. Par exemple, j'avais un grand ami qui vient de décéder maintenant, Alexandre Bolinski, un excellent peintre de décor. Eh bien, quand je l'ai vu, il a peint beaucoup pour moi, même ici d'ailleurs, il m'a aidé. Eh bien, la collaboration, ça veut dire le laisser faire aussi. Quand on voit que c'est de qualité, il n'y a pas que soi là-dedans. L'autre, s'il a du talent, il faut essayer de trouver la veine ou qui développe son talent et qui le magnifie. Et je trouve que ça, la collaboration devient un bonheur.
Isabelle de Pancras, vous me dites amie d'enfance ?
Thierry Bosquet, je dis enfance parce qu'on s'est rencontrés quand j'avais 18 ou 20 ans. Un personnage merveilleux qui est dans sa bulle. Béjart disait de lui, je crois qu'il y a une trappe dans le 18e et peut-être qu'un jour elle va s'ouvrir, on verra apparaître la tête de Thierry. Parce que Thierry est resté vraiment dans son monde 18e, dans son monde Watteau, c'est ce qu'il aime.
Les premières réalisations de Thierry Bosquet à la Menée. Ensuite, il y a eu, bien sûr, quelques années plus tard, lorsque Maurice Haussmann a eu la très bonne idée de faire venir à Bruxelles un jeune chorégraphe français qui avait déjà sa compagnie, une petite compagnie, et qui cherchait quelque chose, une direction. Et tout à coup, il y a eu cette rencontre formidable entre Maurice Haussmann, le directeur de la Menée, et Maurice Béjart. Et donc, Maurice Haussmann a dit à Béjart, voilà, je pense que nous pourrions faire des choses ensemble. Il l'a engagé. Et justement, à partir de 1960, il y a eu aussi cette présence de Béjart à Bruxelles, à la Menée, qui a été une période absolument extraordinaire que tous les amateurs d'opéra aussi et de ballet évoquent avec beaucoup d'émotion. Et donc là aussi, Thierry Bosquet a beaucoup travaillé avec Béjart. Ils ont fait ensemble pas mal de ballets.
Quand j'ai rencontré, moi je faisais de la peinture naïve, mais j'adorais. Et on passait toutes nos vacances ensemble, à une grande table en Italie ou n'importe où, à la mer du Nord. Hein. Et les vacances étaient de s'asseoir à une table et de peindre ensemble.
Marcel Creus, j'ai le souvenir des ballets de Maurice Béjart, où on voit des danseurs torse nu, les femmes avec un vêtement de chair. Et je ne m'imagine pas le décor. Est-ce que le décor était la lumière ?
Dans le cas, évidemment, des ballets de Béjart, si je remonte dans le temps, parce que, encore une fois, on parle tout de même ici de spectacles qui ont eu lieu il y a quelques décennies, je me souviens dans l'ensemble que les travaux, ce que Thierry Bosquet a inventé pour Béjart, relevaient moins, sans doute, d'une sorte de luxuriance baroque à laquelle son nom était associé. Il est évident que quand Thierry participait à des productions, que ce soit de Mozart, ou aussi, d'ailleurs plus près de nous dans le temps, de certains opéras de Richard Strauss, je pense au Chevalier à la Rose, qui est certainement un de ses opéras favoris, où il avait aussi cette inspiration baroquisante. Mais en ce qui concerne le travail avec Béjart, il me paraît que peut-être Béjart, avec évidemment son approche du spectacle très, très moderne, très contemporaine, avait peut-être contribué en quelque sorte à tempérer certaines directions baroquisantes dans l'art de Thierry.
Alors lui était extrêmement baroque. Moi, à ce moment-là, j'étais naïve, je racontais des magasins de porcelaine, je racontais des choses, précisions terribles. Et puis nos chemins se sont écartés, mais pas l'amitié. L'amitié est aussi forte. Il vient 3 fois par semaine ici. On est très, très proches. Mais évidemment, il est toujours étonné quand il arrive ici. Il dit, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Mais comment tu as ces idées? Alors, moi, je n'ai plus d'idées. Je fais tout le temps la même chose. Il ronchonne un peu. Mais c'est un vrai artiste du 18e.
Avant, dans le passé, il y avait beaucoup d'ateliers, donc les gens travaillaient depuis l'enfance, entraient dans un atelier, apprenaient à lire et écrire, et puis apprenaient à sculpter, à broder, à faire tout, quoi, et à peindre. Et là, il y a de grands talents qui se révèlent. Mais dans ce genre de choses, l'essentiel,
Thierry Bosquet,
c'est de partager et de laisser dans le partage la part de création de l'autre, qui est très importante. Et là, ça devient une merveille, quoi. C'est léger. Mais ce n'est pas du tout le mythe alors de l'artiste sacré, sacro-saint, unique au monde, il n'y a que lui qui sache le faire, etc. C'est l'inverse. Et ça, c'est le côté très très attachant de ce genre de la collaboration, de l'atelier, du travail à plusieurs. Et j'ai connu ça au fond toute ma vie, dans des ateliers de décor. Et c'est très amusant.
Il est complètement baroque, j'ai pris une autre direction.
Il y a des artistes qui changent de style, par exemple. En musique, vous avez, pour prendre une autre forme d'art, vous avez Stravinsky, qui, au cours de sa longue carrière, a changé deux ou trois ou quatre fois de style, qui est passé du Sacre du Printemps au néoclassicisme et puis au sérialisme. Enfin, tout le monde connaît ça. Mais donc, il y a des artistes où tout simplement, dans le domaine plastique, Picasso, qui a changé combien de fois de style. Dans le cas d'autres artistes, je dirais, justement, comme Thierry Bosquet, pour en revenir à lui, une de ses vertus, certainement, je crois que la formule est de Jean Cocteau, c'est qu'il a toujours chanté dans son arbre généalogique. Et son arbre généalogique, à lui, c'est évidemment, on l'a dit et redit, et c'est la vérité quand on voit sa carrière et même dans sa vie personnelle aussi, son arbre généalogique, c'est essentiellement Versailles et Venise.
Il y a peu de gens qui dessinent encore comme lui. Et puis, c'est un homme qui a une culture formidable.
Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que quand on enseigne, c'est à peu près la même chose, on enseigne à des gens beaucoup plus jeunes en général, et j'enseigne dans l'école de Fauma van der Kleden l'histoire de l'art décoratif. Je répète tout le temps la même chose depuis 20 ans, mais pas toujours, et je l'ai fait dessiner, je dessine moi-même. En dessinant, je leur explique ce que c'est qu'un style. Comment est né la rocaille, comment est le style empire, d'où il vient, et tous les styles du château de Fontainebleau, de la Z. Toutes des choses très amusantes. Mais, ce qui est inouï, c'est que quand il dessine, on voit l'être doué en 10 minutes. Et alors, on a l'impression de choses très bizarres. C'est qu'on dit, tiens, il va pouvoir m'aider. Et c'est quand on voit, ou elle va pouvoir m'aider, c'est comme votre sauveur, quand on le voit. Très sympathique, ça, d'ailleurs. C'est l'impression que je vais être aidé dans mon monde, il y a un grand projet, il pourra m'aider, le faire aussi, parce qu'on n'est pas capable de le faire seul, c'est souvent trop lourd, trop grand, trop vaste, et ça devient une espèce de paradis, humainement aussi.
Ses parents étaient des gens très cultivés, et donc il a passé beaucoup d'années d'abord au théâtre de la Menée. Il a travaillé pendant 28 ans, 30 ans au théâtre de la Menée. Il a fait
Isabelle de Borgrave.
Je ne sais pas combien de décors. Et puis le temps a avancé et a fait que maintenant les décors d'opéra ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Et c'est moi qui l'ai poussé à peindre des tableaux.
Marcel Kreutz me parle de votre amitié qui remonte dans les années 60.
Oui.
Il me parle d'opéra.
Oui.
Et de danse.
Et de danse, oui. Eh bien, quand je connais les Kreutz, lui et Gisèle, son épouse, je commençais à faire des décors à la Monnaie. Eux, partaient en Chine ou revenaient de Chine, mais ils étaient assidus d'opéra. Ils l'ont toujours été, ils le sont toujours maintenant. Ils ont connu toutes les directions. Toi. Et ils m'ont fort soutenu par leur assiduité, d'ailleurs de fréquence, de leur présence à l'opéra. Et j'ai beaucoup travaillé avec Maurice Béjart.
Il y a des boiseries qui viennent de la maison d'enfance de la princesse Élisabeth, qu'elle a déménagée de Paris quand elle est venue s'installer ici avec son mari, le prince Élie, en 1942, je pense. Et ces boiseries sont des ornementations 18e de la musique et de la chasse, qui était tout ce qu'on aime ici à Chimay. Enfin, un peu moins la chasse aujourd'hui. On avait une table avec où on jouait Auber, où on jouait Berlioz. Il y avait une petite table de musique, un petit quatuor ici, où il y avait des petits concerts tout à fait. On a viré la table pour installer un salon Thierry Bosquet.
Quand je l'ai rencontré, lui faisait des maquettes de costumes de théâtre. Il était théâtre, théâtre, théâtre. Et alors, un jour, il avait fait un portrait d'une amie, de Gisèle Kreutz, la galériste d'art d'Extrême-Orient et d'Oriental. Et je trouvais que ce portrait était fantastique. Et j'ai dit, pourquoi tu fais pas un autre portrait, et puis encore un autre. Et puis, on avait notre petit magasin au Sablon. Donc, j'ai décidé de faire une exposition de ses peintures. C'était la première fois, mais c'était que des portraits. Et je l'ai exposé, je ne sais pas combien de fois. Et je pense que, je peux le dire vraiment, que c'est moi qui l'ai poussé à peindre. Et maintenant, il ne fait que peindre. Il ne fait plus de décors de théâtre. Il ne peint plus lui-même ses décors. Peut-être qu'on lui demande une chose ou l'autre. Mais je crois que ça fait 20 ans qu'il vide sa peinture.
Vous dites, Anne de Rouvre, pièce aveugle, comme est le théâtre, comme est l'opéra.
Où il se passe des choses secrètes peut-être, imaginaires, où on peut se laisser aller à se perdre dans ces maquettes qui sont maintenant complètement installées dans les murs du château.
Mais il fait des décors. Alors c'est un homme de décors, donc il fait des décors, des pièces entières, il fait des miroirs, il fait des choses très baroques.
Où Thierry a repensé les chambres dans les 1000 ans d'histoire du château. Enfin, là, on part à partir du XVIIe siècle. Il y a des chambres un peu où aurait pu dormir Wagner. Il y a une reproduction de la chambre de Madame Tallien. Il y a une salle de garde avec des magnifiques miniatures de soldats en armure.
Maurice Béjart était quelqu'un qui aimait le dépouillement extrême et qui l'a mis à la mode de manière magistrale avec la puissance de la chorégraphie. Mais il avait un côté baroque dont on ne parle pas maintenant, chose curieuse. Il y a des livres qui viennent de sortir sur lui, un film, et on évoque toujours ce qui, là où c'est génial, c'est le chorégraphe qui recherche de la pureté, un nouveau langage, la force vitale. Mais on ne parle pas de son côté fou et baroque. Et ça, il a aimé chez moi. Dès qu'il y avait une chose un peu folle, hop, il me le demandait. Et j'ai vu qu'on a fait des décors complètement fous ensemble. Dont, par exemple, une Traviata tout à fait relue. C'est la première relecture qu'on ait faite, je crois, ou à peu près, me semble-t-il, dans toute l'histoire d'opéra, où il m'avait demandé de reproduire la salle de la Théâtre de la Monnaie sur la scène pour en faire un immense ovale. Et c'était très amusant, en fait, parce qu'on transposait ça en 1900, et je crois que la Traviata elle-même, il l'avait à peu près associée à Sarah Bernhardt, qui était complètement folle, très insensée. Et elle sculptait. Et dans le deuxième acte, alors qu'ils partent à la campagne dans le livret normal, là, on avait transformé la scène en une espèce d'antre, un atelier d'artistes de l'époque, 1900, avec d'immenses palmiers. Et elle sculptait un jeune danseur, très beau, et on s'est amusé comme des fous. Et sur le balcon, les bourgeois apparaissaient comme des vieilles photos. On sait bien, en daguerreotype, quoi. Très, très amusant. Et en fait, son idée était donc sur la scène, le sol de la scène. Elle était là comme un animal particulier, une artiste folle dans l'arène, et que tous les chœurs et tout le monde qui l'entourait était sur les balcons jusqu'en haut, était le monde de la bourgeoisie qui la condamnait. Et au milieu, ça devait être l'objet des rêves. Ce qui fait qu'à la fin, par exemple, dans le livret, la Traviata se lève à un moment donné, juste avant de trépasser. Et au moment où elle se lève, dans ce que nous avons fait, d'abord on l'avait mise au premier acte, entouré d'amis qui étaient des mannequins en cire, que j'avais été chercher au musée Grévin, que j'avais habillé à l'époque très pré-raphaélite, avec des voiles et des choses, comme ces femmes tulipes qu'on voit dans cette époque-là. Par contre, les bourgeois étaient habillés tout à fait comme dans les revues de mode de l'époque, avec des grands chapeaux et des manches égaux. Et alors, à la fin, toutes ces amies, qui étaient ces mannequins silencieux, qu'elles faisaient valser et tourner sur des tourniquets. Et tous ses amis étaient à la fin transformés en mannequins en bois qui servent pour les peintres, vous savez, espèce sur des petits mannequins, voilà, toutes les tailles et de grands. Et ils étaient tous comme autour de son lit. Et son lit, au moment où elle se lève pour dire « Oh Dieu, je me meurs », il se transformait par une vieille machinerie en un navire, aussi en voile, un navire blanc qui partait, comme dans Tristan et Iseult. Il avait très bien réussi, parce que c'était un génie déjà. Et ce qui était merveilleux avec Béjart, on parle de rêve, c'est qu'on n'avait jamais l'impression de travailler avec lui. On vivait une tranche de vie. C'était étonnant, ça. Et je n'ai jamais retrouvé cette personne qu'avec lui. Il faut plonger dans un monde tellement entier. Et voilà ce dont Marcel, je reparlais souvent de ça, que Marcel Creuse évoquait tout à l'heure. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec lui. Et je voyais beaucoup les Creuse aussi, d'ailleurs. J'étais tout jeune.
Mais Thierry Bosquet, pour rester avec Maurice Béjart, étiez-vous de l'aventure du Sacre du Printemps qu'il a révélé au monde ?
Non, non. C'était pas de l'aventure, je l'entendais répéter. On m'avait demandé, Maurice Seban à cette époque-là, qui dirigeait, m'a demandé de faire, je sortais de la cambre, de faire le barbier de Séville, que j'ai complètement raté, c'était ignoble ce que j'ai fait. Et Béja a répété le sacre à côté. C'est un vieux bâtiment qu'on a dû quitter parce qu'il menaçait la ruine et l'incendie. On grillait vif une torche, le feu l'avait pris. Il répétait dans une salle glaciale, on mourait de froid, il n'y avait que des poêles, on mettait des bûches pour avoir chaud. Il avait commencé par dire non, il ne voulait pas le faire. C'est trop fort, moi je viens d'une troupe très, très réduite, j'ai l'habitude de travailler avec 5 ou 6 danseurs, mais pas avec 20, 24, parce qu'on lui avait demandé d'utiliser toute l'ancienne troupe de la Monnaie qui était là encore. Et il a transformé, il a mis 3 semaines à le faire. Il a regardé la télévision qui commençait. Et il a vu des cerfs en rut qui se jetaient l'un sur l'autre. Il dit, ça c'est le sacre. Et il est parti là-dessus. Et je me souviens qu'au moment de la première, à la générale, j'étais à côté de lui, il était là devant moi. Et il dansait autre chose. Il était maquillé, tout jeune, avec une tête toute ronde. Et lorsqu'il me frappait, je regardais son crâne. Il avait des cheveux qui avaient un épi. Ses cheveux tournaient. Et ça porte chance, il paraît. Et je me dis, voilà, un homme qui va avoir une immense carrière en regardant ses chevelures. C'est un peu bête de dire ça. Mais voilà, des souvenirs que j'ai. Et puis alors, peu après, il a fait le Boléro, autre chef-d'œuvre, également aussi en disant, il a écouté longuement, et s'est dit au fond, dans ce Boléro de Ravel, la mélodie est dévorée par le rythme. C'est une très belle idée aussi. Alors ça commence par cette mélodie toute simple, avec une flûte, un tympanon, je crois. Et tout à coup, ça devient de plus en plus effréné. Et il a fait ça, il a chorégraphié la chose avec beaucoup d'ardeur et d'intensité. Et c'est la sublime Dushka Sifinos qui dansait la personne sur la table. Et il a dit tout à danser. Quand elle est arrivée, il avait mis ses chaussons qu'elle craquait pour qu'il soit souple, etc. Et il a dit, laisse tes chaussons pieds nus. Tu te mets sur la table, en maillot, et tu vas voir le chef d'orchestre. Tu dois faire toutes des gestes, ce que je vais te montrer, c'est pour le séduire. Et tu dois essayer de l'emporter à la fin. Ce qu'elle a fait divinement, ils sont mariés d'ailleurs. C'était André Van Der Loo, il a tellement bien réussi son coup qu'il n'en pouvait plus. Elle était belle comme le jour, c'est une déesse, quelqu'un. Et très drôle, très vive, très, très spitante aussi. En fait, c'est un monde de danseurs extraordinaire. Ils avaient tous un charme très beau, tous d'ailleurs. Et à un côté, moi j'adore le monde de la danse parce que c'est comme des anges déchus.
Donc il ne s'agit pas de scénographies qui ont eu cours, de Thierry Bosquet au théâtre ou à l'opéra qui sont transposées ici, mais bien du sur-mesure, directement en fonction de ce qu'était, de ce qu'est le château de Chimay.
Imaginé par Thierry, certainement, oui.
Et mon autre grand-père était pianiste, Émile Bosquet, et était le professeur de tout le monde à cette époque-là, et dans le jury du concours Elisabeth, qui commençait à ce moment-là. Alors il nous a écoutés jouer du piano, on faisait ça très mal. J'ai un frère doué, mais pas moi. On a appris très tôt la musique, mais je ne jouais pas bien, quoi. Je déchiffre facilement. Voilà, ça s'est resté. Mais à part ça, je suis nul. Et puis quoi? Mes parents adoraient d'être tous les châteaux de la terre. Alors on allait visiter les châteaux, d'être plus inconnus dans le fin fond de la France. Et ça m'a donné ce goût de la province française, des jardins, ils étaient très, très cultivés entre nous. Voilà. Et ils m'ont beaucoup fait lire, beaucoup. Mes grands-parents aussi. Mes grands-parents jouaient tous très bien du piano, mes parents aussi, mon père de l'orgue, et ils avaient tous l'oreille absolue, que certains chefs d'orchestre n'ont pas. Ils ont tellement fait solfège, je crois, enfant, que. Voilà. Et je me souviens très bien qu'une des grandes distractions, c'est notre grand-mère. Quand elle partait à dîner, à cette époque-là, quand j'étais enfant, on mettait des gants. Et alors, avant de partir, on lui demandait, « Oh, bon, maman, tu ne veux pas nous jouer une valse de Chopin avec tes gants ?» Sans trouver ce qu'elle faisait. Que ses gants étaient étroits en dedans. Il y avait un vieil rare. Et elle jouait des valses de Chopin comme ça. C'était très, très drôle. Et on trouvait ça divin. Une admiration sans nom. Et puis, mon grand-père de Torrent, qui dirigeait le long, qui dirigeait la Monnaie, je disais toujours que j'adorais les opéras de Mozart. Je crois que la première chose que j'ai vue, ce sont les Noces de Figaro, à la Monnaie. Et j'ai dit que j'adorais cette musique, etc. Et il m'a dit, c'est impossible. Moi, j'ai mis 30 ans à aimer Mozart. Pas un enfant de 6 ans qui prétend ça, tu te vantes. Et je ne me vantais pas du tout, c'était vrai. Et je me dis, mon chien, pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Je veux lui prouver que c'est très bien. Alors j'ai appris à jouer la marche turque et d'autres choses, comme un cochon. Je m'en prie, je le dis, je jouais très très mal. Mais voilà. Et ça m'a permis de j'ai appris quasi par cœur tous les opéras de Mozart. Presque par cœur, oui. La Flûte enchantée, je crois que je la connais par cœur, musicalement. Pas les paroles, mais Don Juan aussi, Così fan tutte aussi. Mais ça, je dois à mon grand-père qui m'a dit que je mettrais 30 ans à aimer. C'est une espèce de vengeance vitale, étrange, idiote. Mais enfin, voilà.
Et de vous, Marcel Kreutz dit baroque.
Alors, je l'ai vu travailler quelquefois, soit à des dessins, soit à des décors, soit à des peintures aussi, puisqu'il y a aussi son côté œuvre graphique. Enfin, il a fait des peintures qui ont donné lieu souvent à des expositions. Alors, ce qui m'a toujours intéressé et frappé dans son travail, d'abord, quand il peint, quand il dessine, dans mon souvenir, ce n'est pas quelqu'un qui est complètement replié sur lui-même, comme c'est parfaitement légitime. Certains artistes n'aiment pas être dérangés, n'aiment pas qu'on s'adresse à eux.
J'ai toujours adoré l'art baroque.
Et le baroque, à vos yeux, c'est ?
C'est la vitalité extrême, une espèce de joie. Et il paraît que les hommes baroques, à l'époque où ils envisageaient de mourir, parce qu'on prévoyait sa mort, la vie était tellement courte, que ils organisaient leur mort de façon baroque. Et on a même, certains seigneurs ont demandé des balais pour leur enterrement. Mais des balais graves, mais voilà. Et tout le décor baroque des enterrements était somptueux. Et c'était comme une façon de vous porter dans l'au-delà avec un tourbillon de joie. C'est le contraire du martyr, quoi. Et de le Moyen-Âge cruel et dur, et où on devait payer son existence et ses péchés. C'est exactement l'inverse. C'est un art indulgent, le baroque aussi. Je m'en dois pas payer, c'est le malheur, ce qu'on a fait de mal. Ça a commencé par des boiseries à Versailles. Je fais une visite à Versailles très très jeune, j'avais 11 ans. J'ai jamais oublié cette visite. Mes parents m'ont dit, tu n'étais plus le même. Depuis lors, tu as changé. Quelque chose qui a changé. Quoi, on ne sait pas, mais ça a changé. Une conviction, une espèce de... Et quand j'ai vu les boiseries de l'appartement privé de Louis XV... qui sont toujours là, qui sont l'une des choses plus belles qu'on puisse voir. C'était le premier acheminement vers le monde baroque, vers toutes ces formes à la fois légères, exquises, ordonnées comme des dentelles étalées sur des murs, etc. Ça m'a fasciné un point. Et puis je vais aller plus loin, plus loin, plus loin. J'ai découvert Venise, où le même esprit est là, mais beaucoup plus fou et beaucoup plus insolite. D'où la passion immense que j'ai eue pour Venise, que j'ai toujours d'ailleurs. Et le baroque italien, de là j'ai aimé le Bernin, j'ai aimé toutes ces choses-là. Je parle beaucoup de moi, il me semble.
Le trompe-l'œil est son art. Oui, il a aussi fait tout un travail il y a quelques années sur les perspectives d'un jardin imaginaire. Donc ça, on se retrouve là, on pourrait être des dessins que le nôtre aurait pu faire, ou les jardins de Versailles, ou n'importe quoi. Enfin, on faisait des projets de jardin comme ça. Et il y a une dizaine d'années, je pense, il avait pris ses petits pinceaux. Il va très très vite, hein. Thierry, il travaille à une vitesse hallucinante. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce jardin affreux qui avait été fouillé par la région wallonne, dans lequel on avait retrouvé des strates et des strates d'archéologie, où ils avaient tout enlevé et nous ont remis de la vilaine terre. Et Thierry a imaginé un jardin à l'arrière avec des perspectives. Alors c'est très gai de le voir fait comme ça, avec des vraies couleurs, avec des vraies fleurs, enfin avec des fausses fleurs, mais au moins on peut s'imaginer ce que serait le rendu. Après, il suffit de planter des arbres et les trouver dans la grandeur qui les a imaginés. Mais c'est très intéressant de revenir comme ça à des choses qui sont des virtuelles vérités. On peut dire ça, des virtuelles vérités ?
Plus d'une fois, je m'étais trouvé dans l'atelier de Thierry. Il dessine, il fait une esquisse, mais en même temps, on peut lui poser une question, il répond, il ne s'interrompt pas pour autant. Alors ça, c'est déjà une première chose. Il est à la fois concentré, mais en même temps, il reste ouvert au monde extérieur. En tout cas, je dirais, quand un ami lui parle ou quand quelqu'un vient lui dire quelque chose, bon, ce n'est pas mal reçu. Et d'autre part, alors surtout pour moi, ce qui me frappait, c'était la sûreté du trait. Parce que Thierry travaille vite. D'abord, dans le théâtre et dans l'opéra, tout le monde le sait, on doit souvent respecter des délais, parfois des délais terriblement serrés. Il faut, à la dernière minute, le metteur en scène décide qu'on va changer tel ou tel décor. Donc, on doit évidemment être prêt à tout moment. Eh bien, la vitesse, moi, ça m'a toujours fasciné, dans le cas de Thierry, la vitesse d'exécution. Il arrive, il a le sujet, la thématique en tête, il prend son crayon ou ses crayons ou ses pinceaux, mais encore une fois, je trouve que la sûreté du trait est absolument immédiate. Et on sent qu'il n'y a pas d'hésitation. Et ça, je trouve remarquable. Il y a des artistes qui sont parfaitement de grands artistes, par ailleurs, chez qui on voit des repentirs, de l'hésitation. Je pense, alors, pour parler de quelqu'un qui est alors aux antipodes, mais c'est parce qu'il y a un film qui va sortir sur lui, qui est Giacometti, le peintre et sculpteur Giacometti, qui était connu justement pour ne jamais finir un tableau, par exemple, ou un portrait. Le film dont il est question, qui sort ces jours-ci, qui s'appelle Final Portrait, on voit Giacometti qui a décidé de faire le portrait d'un jeune ami américain. Et en fait, il commence et puis il s'arrête, il reprend, il déchire, il détruit. Bon, c'est une forme de création qui repose aussi sur l'inquiétude ou même peut-être l'angoisse créatrice. Dans le cas de Thierry, ce qui m'émerveille chez lui, c'est que, en tout cas, tout artiste est certainement angoissé. Mais cette angoisse, moi, ne m'apparaît pas. Et encore une fois, je le regarde travailler et je vois quelqu'un qui saisit ses instruments de travail et qui tout de suite dessine ou un paysage ou un personnage, et aussi avec l'équilibre. Parce qu'encore une fois, bon, c'est une banalité de le dire, mais à l'intérieur d'un tableau, si c'est un tableau ou d'un dessin, il faut qu'il y ait même dans l'espace un équilibre entre le personnage, l'arrière-plan, le décor. Eh bien, chez Thierry, là aussi, ce qui m'épate, c'est que ça surgit spontanément. Il a d'emblée le sens de l'espace et le sens du positionnement de toutes les figures et de tous les éléments à l'intérieur de cet espace. Maintenant, je parlais avec lui tout récemment de la peinture italienne et de ses grandes admirations, Véronèse, Tintoret. Mais on sait, en tout cas, certains témoins qui voyaient travailler ces artistes s'émerveillaient aussi de la vitesse de l'exécution chez des gens comme Tintoret, par exemple, ou Tiepolo, voilà, qui est une des grandes admirations de Thierry. Ben, Tiepolo, d'après les témoins, travaillait très vite. Et alors je me dis, voilà, aussi, Thierry se situe dans cette lignée-là, je crois, des artistes. Alors, ne parlons pas d'inspiration échevelée, je veux dire non contrôlée. Il y a à la fois la main qui va très vite et le cerveau qui contrôle.
Ça, c'est une perspective, ce long-là, qui est la vue qu'on a du parc, du rond de danse dans lequel chantait Malibran. La Malibran chantait là et les gens écoutaient dans la cour. Et le couloir de la forêt faisait que sa voix portait jusque dans la cour. Il y a 2-3 ans, Sonia Yoncheva est venue ici, c'est une amie des princes. On lui a dit, va chanter là, on va écouter. Effectivement, la forêt a porté sa voix jusque dans la cour du château. C'était extraordinaire. Et de là où la Malibran a chanté, c'est la perspective par laquelle Thierry a commencé sa peinture, on voit se profiler le bulbe du château. Et ça, c'est une grande allée qui est visible depuis la cour du château. Voilà les perspectives des plantations, ce qui rendrait complètement fou nos jardiniers. Parce que c'est un travail de sculpture, de pouvoir conserver des projets comme ça. C'est un travail énorme.
Vous parliez, Thierry Bosquet, de la cambre.
Je me suis amusé comme un fou à la cambre. Parce que d'abord, j'avais horreur des études. J'étais à l'école de Crolly, où on me forçait, comme tous les élèves, à faire tout ce qu'on de programme. Ça m'ennuie à mourir. Je ne pensais qu'à une chose, à peindre et à faire des décors. Et quand mon grand-père dirigeait la Monnaie, tout enfant, j'ai tout le temps été à la Monnaie. Et j'ai pris le goût, je me dis, à 6 ans, je savais ce que je voulais faire. Et en fait, à la Cambre, j'avais enfin le temps de faire des petites maquettes minuscules dans des petites boîtes, etc. J'avais un professeur, Herman Clausson, bon professeur, théoriquement. Il y avait plein de gens, amis de mes parents, qui donnaient cours. Jacques Stéman, qui était professeur de musique, l'histoire de la musique. Donc, je me suis amusé comme un fou à la Cambre. Et surtout, j'avais le temps de pondre, tirer les gros des costumes, tout le bazar. En plus, la Cambre était très bohème, pas du tout officielle comme maintenant, beaucoup plus libérale et, enfin, je ne sais pas. Parfois, c'est dur parce qu'on avait froid. de nouveau. Il y avait des poêles dans les classes, et on se chauffait avec des bois. On faisait le tour des classes pour rire, on se voyait au cours commun, très amusant, avec Lucas Arzantou qui donnait un cours. Des arts du feu, il parlait de tout sauf des arts du feu, on hurlait de rire, mais tout ça était spité d'intelligence et de drôlerie. Donc Lacan pour moi est un merveilleux souvenir. Mais le métier, je ne l'ai pas appris vraiment là. Parce que le théâtre, c'est quand on le fait, il n'y a pas une fois autrement. Ça se fait dans des petites boîtes là, en carton, à 2 cm par mètre. Tandis que le métier, c'est là, tout à coup tombé dans la grandeur. Quoi. C'est très difficile. Et là, j'ai appris à peindre avec une longue brosse et à être comme un peintre italien. On fait venir parfois des Italiens de Milan pour peindre des choses trop difficiles ou parce qu'on n'a pas le temps. Et ils ont une rapidité folle. Et j'ai appris ce métier vraiment sur le tas, comme on dit. Et je crois qu'il n'y a pas moyen de l'apprendre autrement. Bien. C'est en le faisant que...
Un de Rouvre, si on se rendait au théâtre.
Allons-y. On va pouvoir y admirer la nouvelle toile.
Et quant au théâtre, je pensais à Marivaux, on vous écoute.
J'ai beaucoup aimé Marivaux aussi, mais moins. Chose curieuse, bah le théâtre, j'aime mieux Molière. Molière n'est pas baroque, il est plus que ça, il est tout, quoi, ça se dit, c'est bon. Tandis que Marivaux, il y a quelque chose de froid dans Marivaux. C'est purement cérébral. Et on ne croit pas, là, pas toutes les pièces. Par exemple, il y a une pièce qui s'appelle « Le triomphe de l'amour » que Cazares a joué chez Jean Villard, qui est une pièce étonnante sur l'amour, justement. Mais, et puis elle transmettait ça par son anxiété, par son côté fébrile. Tandis que dans les autres pièces, on sont souvent des jeux de l'amour et du hasard, justement. Et c'est très cérébral. Et ça m'embête vite. C'est très beau, la langue divine, ça. Mais ce n'est pas... Je n'ai jamais trouvé ça des chefs-d'œuvre. Tandis que je vois n'importe quoi de Molière, c'est un chef-d'œuvre.
Et je pensais aussi à un metteur en scène qu'on qualifiait de baroque, décédé aujourd'hui. Avez-vous collaboré ensemble ? Il s'agit d'Henri Ronce.
Non, jamais. Il m'a toujours dit qu'il le ferait, il ne l'a jamais fait. Et ça m'aurait bien amusé d'ailleurs de travailler pour lui. Oh, mais la prochaine fois c'est vous, je n'ai jamais fait venir. Mais je crois que, vous savez, les metteurs en scène ont une chose, c'est qu'ils ont leur groupe, leurs habitudes, leurs décorateurs, et que ça va, les choses vont plus vite, ils le comprennent très vite. Tandis que si on prend un nouveau, il faut tout réacharner tout le bazar, quoi. Remettre la machine en marche d'une autre façon. Mais ça m'aurait amusé de travailler pour lui, parce que c'est un visionnaire. Et il avait des choses très très bien, très belles. Oui. Mais enfin voilà, le sort n'a pas vu la chose.
Et quand vous dites aussi visionnaire, vous pensez à vous ?
À qui ?
Visionnaire, vous dites, il était aussi visionnaire.
Il était aussi visionnaire, comme vous. Oui, oui. Il avait des visions, il avait, et puis alors il avait une culture picturale très grande, il avait une façon de mettre, comme Béjart avait ça aussi, quand il se mettait à une œuvre, il la plaçait dans un contexte très précis, culturel et très cohérent, mais toujours amusant. Pas du tout, tout à coup, c'était Magritte ou bien c'était Delvaux, entre autres. Il a fait tout un tas de choses comme ça, il était assez... Et c'est très enrichissant de travailler avec quelqu'un comme ça. Mais enfin, voilà.
Paul Delvaux, c'est vrai, c'est aussi un artiste de...
Lui était professeur à Lacan.
Oui, mais vous êtes bien...
Non, pas bien connu, je l'ai connu comme ça. On savait que nous étions, quoi, disons. Et puis quand il peignait ce salon chez les Perrier, dans le square de Mirdel au fond, il y avait, on allait, un grand ami de sa fille, de la fille de Gilbert Perrier, le commanditaire des fresques. Et quand on terminait les cours, on allait au fond regarder Delvaux peindre, qui après ses cours se mettait à peindre là. Et il était très impressionnant, parce que c'était un homme qui avait des manies étranges. Il adorait la pureté, il adorait prendre des bains froids, glacés au mois de janvier à la mer du Nord. Ça, il trouvait le comble du bonheur. Des choses comme ça. Il se rasait tout à fait. Il avait horreur des manches à ses chemises. Donc il avait toujours des chemises sans manches. Mais là, coupé là, hein, comme si on avait arraché. Il adorait la musique. Il adorait Mozart, ce que j'adorais aussi. Bien entendu, j'ai déjà dit 20 fois. Et il avait une manie, c'est qu'il regardait les gens comme une poule. Il se mettait sur le côté, il ne pouvait jamais regarder quelqu'un de face. Il regardait en biais. Les poules font ça. Eh bien, il était comme ça.
Il est très, très bizarre, très marrant.
Princesse Elisabeth.
Vous rentrez maintenant?
Oui.
Moi, chérie. Vous rentrez maintenant?
J'ai fini.
Parce qu'il y a Alain Jacob qui voulait venir voir votre navette. Je peux vite l'appeler? Tanguy, tu ne veux pas aller chercher le professeur Jacob pour venir voir le tableau de Princesse Elisabeth? Oui.
Mais bon, tableau.
Non, il veut le voir parce que lui, il a écrit, il a recensé les 600 navettes.
Ah oui.
Et le vôtre, il ne l'a jamais vu en vrai, donc il est...
Mais où est-ce que tu veux...
Il va vous allez aller le montrer dans le salon avec Alain Jacobs.
Oui, mais là-bas
je... Oui, mais il va venir avec vous, il est passionnant, c'est un grand professeur.
Mais oui, mais je me demande de quelle porte... À quelle porte
il est dans la salle à manger. François Joseph, avec son pantalon blanc et ses médailles.
Et dans cette émission où je le rencontre au château de Chimay, apparaît, et vous parliez de Gisèle Kroes, Marcel Kroes.
Oui, Marcel et Gisèle, ce sont des amis de toujours. Quand Gisèle est rentrée de Chine, Marcel était professeur à la Cambre.
Princesse Elisabeth chante tout le temps. Elle a 93 ans, je ne sais pas si c'est convenable de le dire, mais il y a un âge où on peut le dire. Et elle chante tout le temps, on l'entend tout le temps chanter d'une pièce à l'autre. Elle chante des chansons grivoises, il faut l'enregistrer parce que ça c'est très drôle. Raconter la chanson du vétérinaire qui soufflait dans le derrière des chevaux. Vous la connaissez? C'est de l'or.
Le salon Thierry Bosquet, au château de Chimay, portrait d'artiste, par Thierry Jeunicot.
Je peux comprendre. Mais ça me gêne, moi, de chanter cette chanson.
Ben non, faut pas être gêné, c'est tellement drôle.
Souffler dans le des chevaux. Avec un petit tube en verre. Mais je ne sais plus trop bien, je m'arrête dans mon élan. Parce que je me souviens plus très bien de qui suis. Non, parce qu'il veut dire que je ne suis pas sérieux, ce monsieur. Je chantais ça à un vétérinaire, c'est pas une chanson particulièrement aimable. Mais ceci dit, toutes ces chansons sont cocasses. Elles font des blagues avec tout le monde. Oh, c'est gay, c'est pas méchant.
Le salon Thierry Bosquet, au château de Chimay, portrait d'artiste, avec Anne de Rouveur, Marcel Kroes, Isabelle de Borgrave, la princesse Elisabeth et Thierry Bosquet. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.